Seigneur, nous donne d'être victorieux. Seigneur, ce soir, oui, nous voulons saisir par la foi encore cette victoire, cette grâce de marcher dans tes voies et d'aller plus loin. Seigneur, je te prie encore dans ces moments d'être, Seigneur, de nous donner d'être tout à l'écoute de ta parole. Je te prie vraiment de disposer nos cœurs, les yeux de nos cœurs,
amen,
les oreilles de nos cœurs à être tout à l'écoute. Seigneur, afin de saisir, oui, par la foi, ce que tu mets là à notre disposition pour ta gloire, au nom de Jésus.
Amen. Amen.
Oui, ce soir, ton cœur est comme celui d'Anne. Ton cœur pleure l'intérieur. Le Seigneur a vu ta détresse. Il a vu tes larmes. Il compte tes larmes. Il te rappelle ce soir. Oui, il te rappelle. Prends cette parole pour toi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors ne te lamente pas. Mais si tu crois, tu verras la gloire.
Le Seigneur soit béni. Jésus l'a dit, oui, vous avez des oreilles et vous, qu'est-ce qu'il a dit? Et vous n'entendez pas. Vous avez des yeux. Qu'il n'en soit pas ainsi ce soir que nos yeux, les yeux de notre cœur, les oreilles de notre cœur soient ouvertes pour discerner la volonté de Dieu. Nous allons poursuivre ce que nous avons commencé dimanche, à savoir l'importance de discerner la volonté de Dieu. C'est écrit dans les Romains au chapitre 12, il y a toute une exhortation de l'apôtre Paul qui dit que nous devons faire certaines choses pour discerner la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ça a plusieurs volets en vérité, puisqu'il est dit qu'elle peut être bonne, agréable et parfaite. Donc il y a une progression dans le discernement de la volonté de Dieu. C'est dans Romains au chapitre 12. C'est toute une exhortation. Pourquoi? Eh bien, il parle de ces compassions de Dieu, bien sûr. Les pécheurs seront au bénéfice de la grâce du Seigneur Jésus-Christ si une église vit dans la volonté de Dieu. Est-ce qu'une église peut ne pas être dans la volonté de Dieu? Est-ce que toute une église peut ne pas être dans la volonté de Dieu? Ben oui. Ben oui. Quand dans l'église de Laodicée, ils ont réussi à mettre Jésus dehors, on peut en déduire que malgré les œuvres, toute une église ne marche pas dans la volonté de Dieu. Et heureusement que Dieu, dans sa miséricorde, même s'il parle d'une manière collective, s'adresse toujours à l'individu. On le voit dans Amos au chapitre 4, lorsqu'il dit « Je vous ai envoyé la nielle, je vous ai envoyé la rouille, j'ai envoyé ceci, j'ai envoyé cela, vous n'êtes pas revenu à moi. » Tout un chapitre sur le collectif, et puis il termine en disant « Mais prépare-toi ». Il ne dit pas « préparez-vous ». Normalement, le bon français aurait voulu que Dieu utilise « préparez-vous », puisqu'il a vouvoyé tout le monde. Mais cela prouve qu'à un moment donné, la vie spirituelle est quelque chose d'individuel. Dans la lettre de l'Apocalypse, c'est pareil. Dieu parle à l'Église et puis il termine en disant « à celui qui vaincra ». Donc, la bénédiction, c'est sûr, elle est collective, elle est corporative, mais en vérité, elle est individuel, parce que même dans une église où tout le monde serait léger, si quelqu'un veut être profond, eh bien Dieu bénira cette personne qui veut de la profondeur d'âme. Donc Romains chapitre 12 nous indique plusieurs conditions pour discerner la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, vous comprenez bien que c'est un peu plus sérieux qu'aller à l'église, lire la Bible, chanter des cantiques et connaître la communion fraternelle. Tout ça fait partie de la volonté de Dieu. Mais on peut vivre ces choses sans discerner la volonté du Seigneur. Donc on relit ce verset d'introduction, Romains chapitre 12, verset 1er, « Je vous exhorte, ce n'est pas une obligation, c'est une exhortation, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Amen. Donc ce qui nous préoccupe à nous, qui sommes dans la maison du Seigneur, est-ce que je discerne la volonté de Dieu? Est-ce que je comprends la volonté de Dieu? On est dans les Romains, un peu plus loin dans les Éphésiens, on peut lire notre verset. Il y en a plusieurs versets, énormément de versets d'ailleurs. Galates, Éphésiens, oui. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Oui, c'est le verset 15. Un autre verset qui indique combien il faut que ça passe par la compréhension. Prenez donc garde, afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Vous savez ce qui est arrivé aux vierges folles, hein? Voilà, parce qu'elles n'ont pas pris garde. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Je me pose la question, même au sein de l'assemblée dans laquelle nous sommes, est-ce que tous, nous discernons la volonté de Dieu? Est-ce que nous comprenons la volonté de Dieu? Car beaucoup de chrétiens, par exemple, peuvent réciter, oui, je dis bien réciter, pas prier. Prier, c'est excellent. Mais réciter le Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite, et s'imaginer que la volonté de Dieu sera faite parce qu'il récite une prière. Et le Seigneur n'est pas du tout d'accord avec les récitations, la routine et le train-train, il faut une circonspection de cœur, comme on vient de le lire, comprenez quelle est la volonté de Dieu. Alors ça passe par la compréhension, ça passe toujours par la compréhension. On voit le bien, l'apôtre Paul, lorsqu'il prie, dit, mais je prie pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à l'appel, afin que Dieu vous donne. Donc pour que Dieu nous donne certaines choses, il faut d'abord les apprendre. Alors nous avions pris un texte dans 1 Pierre, au chapitre 3, où nous avions parlé de cette parole, il faut que certaines choses soient vécues afin que rien ne vienne faire obstacle à nos prières. Car franchement, ça serait terrible que le Saint-Esprit vous montre ou vous dise « ça fait 3 ans que tu pries pour rien ». Vous aimeriez avoir affaire à cette situation, que Dieu vous dise « mais tu pries pour rien ». Et je peux vous dire que Dieu, si les gens écoutaient, certainement, Dieu pourrait dire à certaines personnes cette affaire-là. Est-ce qu'on peut prier pour rien? Est-ce qu'il y a des textes dans la Bible qui en parlent? Eh oui, il y en a, des textes. Dans Isaïe, le chapitre 1er, Dieu me dit, quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Donc là, à 1 Pierre, alors on va faire plusieurs digressions, mais ça ne fait rien. Je vous ai exhorté à lire les 3 premiers chapitres de l'Épître de Pierre, parce que c'est une étude qu'on fait au niveau de l'Église, mais c'est une exhortation que vous pouvez faire vous-même. D'autant plus que nous avons la parole de Dieu dans notre langue, et que vous pouvez, par le biais d'Internet, vous procurer une concordance gratuitement. Là aussi, je ne sais pas si vous vous rendez compte, et tapez le mot bénédiction, le mot malédiction, le mot béni, le mot malheur, tous ces mots, et lire tous les textes, et vous verrez très simplement et très vite comment on attire la bénédiction ou comment, sans s'en rendre compte, eh bien on est maudit. La Bible parle des enfants de malédiction, il parle des chrétiens. 1 Pierre chapitre 3, verset 7, la fin du verset 7, comme il y a 3 phrases normalement, on devrait dire 7C, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc c'est quelque chose qui devrait nous préoccuper. Est-ce que c'est important pour vous? Ne me répondez pas tous en même temps, parce que ça me... Est-ce que c'est important pour vous que vous sachiez ce qui pourrait faire obstacle à la prière? Écoutez-moi bien, mes frères et sœurs, je suis super bien placé pour savoir qu'il y a des chrétiens qui prient pour rien, qui ont, par exemple, dans leur cœur une attitude qui attriste le Saint-Esprit. Ce qui fait que leurs prières ne peuvent pas être exaucées. Comme je l'ai déjà dit, la seule prière que Dieu pourrait exaucer, c'est « Seigneur, je te demande pardon ». Cette prière-là, Dieu l'exauce. Mais les autres ne seront pas exaucés tant que la personne n'aura pas eu l'honnêteté de dire « Seigneur, je te demande pardon ». Je te demande pardon pour mon irritation. L'irritation, est-ce que ça permet à Dieu d'agir? Non. Quelqu'un qui est irrité, Dieu ne le bénit pas. Il me dit, non, mais tu plaisantes, l'irritation, c'est rien. C'est quoi l'irritation dans le grec? Dans le grec, c'est de la colère. Et vous demanderez à comment il s'appelle, à Caïn, si quand on est irrité, ça peut se terminer mal. Il était irrité parce qu'il n'avait pas accepté un reproche de la part du Seigneur par rapport au sacrifice qu'il avait fait. Et Dieu va quand même le voir et il lui dit, mais quand même, pourquoi tu t'irrites? Pourquoi tu fais bien de t'irriter? Le péché se couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. Vous savez comment ça finit? L'irritation venait de la jalousie, l'irritation entraînait de la colère entraînait de l'envie, et l'envie entraînait le meurtre. Et ce brave Caïn, entre guillemets, eh bien, il a erré toute sa vie, alors que Dieu lui avait proposé de prendre la victoire. L'irritation empêche Dieu d'agir. C'est pour cela qu'il faut commencer à comprendre. Vous voyez, qu'il en soit ainsi. Alors, je vous avais dit que les conditions de ce qu'il en soit ainsi commencent au verset 12 du chapitre 1er. Parce que nous, on est un petit peu coincés, alors que c'est une bénédiction d'avoir des chapitres et des versets. Mais au début, il n'y avait pas de chapitre, il n'y avait pas de verset. Il n'y a qu'un tout et chaque lettre forme un tout. Mais n'oubliez pas qu'il n'y a pas de... Nous, on est là, on s'arrête avec des versets. Non, ça commence au chapitre 1er, au verset 12. Il y a toute une introduction sur la souffrance et sur la gloire. Et à partir du chapitre 12, il y a tout un tas d'indications, d'exhortations, pour que rien ne vienne faire obstacle à nos prières. La première exhortation, c'est au verset 13. 1 Pierre, chapitre 1, verset 13. Première instruction. Vous pouvez le faire tout seul, normalement. Après, moi, je peux vous aider, bien sûr. Mais normalement, vous pourriez le faire tout seul. Je ne pense pas que ça nécessite la présence d'un pasteur pour que vous le fassiez. 1 Pierre, chapitre 1, verset 13. C'est pourquoi « Saignez les reins de votre entendement ». Vous voyez que ça commence par, qu'on le veuille ou non, ça commence par l'entendement. C'est-à-dire la faculté de comprendre. Et que vous le vouliez ou non, la compréhension est quelque chose d'important. La compréhension, ce n'est pas une question d'intelligence. Il y a des gens qui disent « Oui, mais moi, je ne suis pas intelligent ». Ce n'est pas une question d'intelligence. Cette affaire-là, c'est une question d'ouverture de cœur. Béni soit Dieu pour l'intelligence, béni soit Dieu pour les facultés que certains ont, plus que d'autres, c'est vrai. D'ailleurs, la preuve, c'est que Dieu donne des talents plus à l'un qu'à l'autre, mais ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est que je puisse comprendre cette première instruction, ceindre les reins de mon entendement. Les reins, c'est quoi? C'est le symbole des pensées et des sentiments intimes, les reins. Donc, il faut que je maîtrise ces pensées. C'est important, les pensées. Il y a un verset qui dit, je ne sais plus dans quel proverbe, « L'homme est tel que sont les pensées de son âme ». Vous savez que les pensées, c'est important, les pensées. Oui ou non? On peut se faire beaucoup de mal avec des pensées qui ne sont pas du tout spirituelles. On peut s'auto-détruire, etc. « Saignez les reins de votre entendement ». Saigner, ça veut dire je serre ces choses. C'est comme quand l'apôtre Paul dit « L'amour de Christ me presse ». C'est-à-dire qu'il ne peut pas s'en échapper. Pourquoi? Parce qu'il est saint de cet amour. Il est tellement attaché à Dieu qu'il il est entouré de cet amour. Il ne peut pas s'en défaire. Alors ça commence avec cette affaire. Saignez les reins de votre entendement. Quand Paul parle des jours difficiles, il y en a des jours difficiles, en fait, dites-moi. Est-ce que tous les jours sont bons? Non, il y a des jours difficiles, il y a des jours mauvais. Eh bien, il dit, prenez toutes les armes. Mettez à vos reins la vérité. Pour ceinture, un chrétien, il est accaparé par la vérité, il est obsédé par la vérité. Il veut savoir, mais je veux être béni. D'autant plus que les paroles sont terribles quand vous voyez Jérémie qui dit « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel ». Mais il dit juste au-dessus « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair ». Pour appui, les gens qui sont tout le temps en train de parler mal, de se confier en l'homme, et qu'est-ce que t'en penses, et tatati, et lui m'a fait ci, et lui m'a fait ça. Non, ne vous confiez pas dans l'homme. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Même si les hommes peuvent vous faire des tours difficiles. C'est un vrai problème, ça. Et le diable, il le sait. Je voudrais voir deux versets avec vous, deux textes, pour vous montrer combien il est important de veiller sur l'amitié. L'amitié, c'est important, l'amitié. Est-ce que vous avez déjà été blessé par des amis?
Oui.
C'est bon, vous représentez la majorité. Alors, regardez. Non, mais c'est bien. Madame Loukouni, elle est spontanée, c'est bien. Des fois, un peu trop, mais enfin, bon, allez. Psaume. Alors, c'est le psaume 55. C'est des choses qui arrivent. Il faut veiller à cela. David l'exprime dans un psaume 55, verset 13. C'est normal. On est affligé dans tous les domaines, même dans le domaine de l'amitié et dans le domaine fraternel. Ne vous offusquez pas. ne vous irritez pas parce qu'un frère ou même un ami vous a outragé. Regardez ce que David dit, psaume 55, verset 13. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage. Je le supporterai, c'est clair, c'est de bonne guerre. Je suis chrétien, cette personne est contre Dieu, il y a un conflit, est-ce que c'est normal? Ben oui, c'est normal. Mais ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal, toi, mon confident et mon ami. Oui. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité, nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Vous méditerez ce psaume et vous verrez qu'il peut y avoir des difficultés lorsqu'on est, confronté avec des amis. Alors, on va avoir une solution. Est-ce que vous avez lu le livre de Job ? Vous avez lu le livre de Job. Job, il a été entouré. Ses amis ont été bien. Ils ont été bien 7 jours. Pourquoi ? Parce que les 7 premiers jours, qu'est-ce qu'ils ont fait les 7 premiers jours ? Ils n'ont rien dit. Les 7 premiers jours, ils ont été impeccables. Et à partir du 7e jour, ils ont commencé à lui tomber dessus. Ils ne pouvaient pas comprendre ce qui lui arrivait. Et pendant des mois, ils l'ont accablé. Ça a été très, 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 très violent. C'est écrit d'une manière poétique, mais si on l'écrivait en français courant, je peux vous dire que c'est vraiment méchant. Dieu a rétabli Job. Vous savez que Dieu a rétabli Job. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire ce que Dieu a demandé à Job pour qu'il soit rétabli? On le lit? Alors, Job 42. C'est important. Pendant des mois, ses amis l'ont accablé, malmené, découragé, culpabilisé. Je répète, ses amis. Vous savez, n'en voulez pas à vos amis qui ne vous comprennent pas. Ne leur en voulez pas. N'en voulez pas à quelqu'un parce qu'il ne vous comprend pas. Ça fait partie du processus de formation spirituelle. Ça fait partie des diverses épreuves. Nous, on n'aimerait pas. Mais c'est la vie. Considérée comme un sujet de joie complète. Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être confronté. Sachant, vous connaissez la suite ? Sachant que l'épreuve de la foi produit... La patience. La suite, Madame Chapeau. Et il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfait et accompli. Accompli, c'est-à-dire les gens qui ont rempli les conditions. Mes frères et sœurs, qu'il en soit ainsi. Regardez, bon, Dieu a rien dit pendant des mois, parce que Dieu peut se taire. Hein, Dieu pose des... Je vous l'ai dit, dans ce livre, il y a 290 questions. 290, Dieu en pose 78. Et là, donc, verset 7. Regardez bien, c'est important, si nous voulons que nos prières soient exaucées, regardez bien. Après que l'Éternel lui a adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. » Est-ce que Dieu aurait pu leur dire ça le premier jour ? Pourquoi Dieu a attendu des mois ? Eh bien, parce que Dieu nous éprouve. C'est ça l'épreuve. L'épreuve, il faut que ça dure. Joseph, ça a duré que 13 ans. Mais Dieu était avec lui, parce qu'il acceptait l'épreuve. On continue. Prenez maintenant cet taureau, cet bélier, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous. Et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Éliphaz de Théman, Bildad de Shua et Tsophar de Naama allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit. Et l'Éternel, regardez bien, et l'Éternel lui égare à la prière de Job. Regardez bien le verset 10, mes frères et sœurs. Pourtant, Job aurait eu le droit de dire « Non, je ne prie pas pour eux. Ils m'ont blessé pendant des mois, non. » L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. C'est ça, bénir. Dieu te demande de prier. Prier, c'est bénir. Quand tu pries, tu bénis. Seigneur, je te prie pour monsieur un tel. Il m'a blessé, mais ce n'est pas grave. Je te prie pour lui. Vous pouvez être certain que ça plaît au Seigneur. Et il y a des chrétiens qui sont tout le temps en train de se mépriser eux-mêmes. Comme je l'ai dit dimanche, quand il est dit qu'un enfant qui méprise son père ou sa mère, qu'est-ce qu'il est ? Il est maudit. C'est écrit ou c'est pas écrit ? Et si vous êtes encore, si vous avez encore vos parents, veillez à ne pas les mépriser. Bénissez-les. Oh, mais ils sont vieux maintenant. Ils sont vieux, ils radotent. Et alors ? Bénissez. Saignez les rênes de votre entendement. Saignez les rênes de notre... Mais il faut que ça rentre. Il faut que j'apprenne moi aussi. Je veux que Dieu me rétablisse. J'ai perdu la foi. J'ai perdu de la foi. J'ai perdu de l'amour. J'ai pas fait des progrès. Je suis chrétien depuis tant d'années. Oui, je suis honnête. Je veux être honnête. J'ai pas fait des progrès. Je suis tout le temps en train de juger, de critiquer. Je suis tout le temps de me comparer. Mais à quoi ça sert de se comparer à quelqu'un? C'est des ruses du diable, tout ça. C'est les amis, ils m'ont abîmé, j'allais dire, ils m'ont esquinté. Ben oui, mais lisez le livre de Job. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 290 questions. Moi, ce livre, c'est un livre qui m'a affolé de voir combien même les gens qui nous aiment peuvent nous faire du mal. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que Dieu, lui, il sait. C'est Dieu qui bénit. La bénédiction, elle vient de Dieu. Vous le croyez, mes frères et sœurs? C'est Dieu qui vous bénira. Et Dieu, il ne se trompe jamais. C'est Dieu qui bénit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Les efforts de l'homme n'y ajoutent rien. Donc, il faut prendre cette épître de Pierre et commencer à comprendre que la première condition, c'est pas « Marie, aimez vos femmes, et femmes, soumettez-vous à votre mari ». C'est sûr que ça fait partie de la vie relationnelle, de la vie sociale, de la vie familiale, parce que la vie spirituelle, c'est pas que le ciel. La vie spirituelle, c'est la vie sociale, c'est la vie professionnelle, c'est la vie familiale, c'est la vie fraternelle, et c'est la vie avec les amis. Et les amis, oui, les amis peuvent se tromper. Et Dieu peut même utiliser des amis pour vous blesser. Oui ou non? Jésus l'a dit, venez à moi vous tous. Et après, il est écrit, tous m'ont abandonné. Qu'on ait abandonné Judas, bon, tu te dis, bon, après tout, il l'a cherché. Mais Jésus l'a dit, tous m'ont abandonné. Donc, la première parole qu'il devait prononcer sur la croix, c'est, je les renie tous. C'est ça qu'il a dit, la première parole sur la croix ? Non. Qu'est-ce qu'il a dit ? Père, pardonne-leur. Il est béni. Et en prononçant cette parole, le Seigneur accorde le pardon à l'humanité. Il pardonne. C'est même pas lui qui pardonne. Il demande à Dieu de pardonner. Ça prouve que lui l'avait pardonné. Vous comprenez ? Puisqu'il dit Père, il ne dit pas « Je les pardonne ». Il dit « Père, pardonne-leur ». Ça veut dire que lui, il avait c'était déjà fait. Que son nom soit béni. Et en prononçant cette parole, il nous amène le pardon. Et si on est là ce soir, c'est grâce à cette première parole de Jésus sur la croix. C'est pour ça qu'on fait bien de chanter des cantiques sur le calvaire. Parce que ça nous ramène toujours à la bénédiction. Un chrétien, il doit ceindre les reins de son entendement. Il doit dire, mais qu'est-ce que c'est qui amène la malédiction? Qu'est-ce que c'est qui attire le malheur? Il y a des chrétiens, Seigneur, ils vont dire, bénis-moi, bénis-moi. Et alors qu'en fin de compte, leur propos fait que Dieu ne pourra pas les bénir. Est-ce que vous comprenez? Un homme qui méprise sa femme, est-ce qu'il va être béni? Mais non. Mais c'est écrit. C'est pour ça que Dieu dit, mais Marie, aimez vos femmes. C'est quoi pour vous aimer quelqu'un? Eh bien, ça représente beaucoup de choses. Qu'il en soit ainsi. Alors, ça vaut la peine de revenir. Mais j'aimerais peut-être parler sur l'irritation. Parce que quand même, je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont irrités. Ils sont toujours irrités, en colère. Et la colère, je peux vous dire que ça n'accomplit pas la justice de Dieu. Ne vous mettez pas en colère. La Bible dit que si on se met en colère, que le soleil ne se couche pas sous la gloire. Ça peut arriver. Mais la colère, elle n'accomplit pas la justice. Si vous êtes toujours en colère, oui, il m'énerve. Il y a des gens qui m'énervent, tout le monde m'énerve. Quand je suis sur la rocade, je suis énervé, il m'énerve. Il y a des gens, mais ils ne se rendent pas compte que l'irritation... Ça empêche Dieu d'agir. Et le diable, par contre, il veut le savoir. On le lit, c'est dans le psaume. C'est dans quel psaume? Alors, c'est pas le psaume 37. Regardez bien quand même, c'est des choses terribles ça. On devrait les connaître par cœur. C'est vital dans le cœur d'un chrétien. Saignez les reins de votre entendement. Soyez sobre. Soyez sobre, ça veut dire quoi? C'est la deuxième exhortation. Ça veut dire quoi, soyez sobre? Ça veut dire qu'il ne faut pas boire de vin? C'est ça que ça veut dire? Bien sûr que ça veut dire qu'il faut être... Mais ça veut dire, c'est mieux écrit d'ailleurs, il est dit, soyez sobre en toutes choses. Ça veut dire en tout. Bien sûr que ça concerne l'alcool, ça concerne surtout les paroles. Soyez sobre. Regardez ce psaume 37. Écoutez-moi, si nous prions vraiment pour que Dieu nous éclaire, hein, vous allez pouvoir ceindre les reins de votre entendement. Il y a beaucoup de il y a des chrétiens qui me le disent. Je suis venu à l'église, je ne pouvais même pas écouter la prédication, tellement je suis en braque. Ben, ça nous est déjà peut-être arrivé. On est tellement accaparé par quelque chose qu'on n'écoute pas la prédication. Est-ce que ça peut arriver? Non? Eh oui, ça peut arriver. Psaume 37. Ce sont des psaumes où le chemin, il est dit que Dieu agira. Dieu agira. Ne t'irrite pas contre les méchants. Les méchants, je vous le répète, ce ne sont pas des pécheurs. Les méchants, ce sont des chrétiens qui n'ont pas de communion avec Dieu. C'est pour ça qu'il y en a certains qui irritent. N'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ah bien sûr que nous, ce verset, on le connaît par cœur. Qui ne connaissait pas ce verset? Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais ce verset est conditionné à ce qu'il y a avant, ne t'irrite pas, et à ce qu'il y a après. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance. C'est pas une question de prier, c'est une question de lui faire confiance. Et il agira, il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Garde le silence devant l'Éternel. Ça veut dire quoi? Qu'il faut pas prier quand on est dans la présence de Dieu? C'est pas que ça que ça veut dire. Bien sûr que oui, on peut rester dans le silence parce qu'on a besoin d'être seul dans la présence de Dieu. Mais garde le silence, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'en parler. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Alors garde le silence. Ne t'irrite pas. Ne t'irrite pas. Alors là, au début, c'est contre les méchants. Maintenant, c'est contre celui qui réussit dans ses voies. Il y a des gens, ils peuvent réussir. Je ne comprends pas. Il fait le mal. Il ment. Il est mauvais. Il est grossier. Et il a du succès. Ah bon? C'est possible, ça? Ben oui, c'est possible. Et alors? Ça ne regarde pas. C'est son problème, hein. Contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Quand on s'irrite, c'est pas bon signe. Ne dites rien. Seigneur, j'accepte l'épreuve. J'accepte. Mes frères et sœurs, ceindre les reins de son entendement, c'est ça. C'est dire, Seigneur, parle-moi. On peut poser la question. C'est une question, vous avez la réponse, je ne sais pas. Est-ce que Dieu aurait rétabli Job si Job n'avait pas béni ses amis? Non. Puisque Dieu lui a demandé, il fallait qu'il le fasse. Et si ce soir, au travers de ce moment, le Seigneur nous demande à chacun de bénir, tous ceux qui nous entourent, ceux qui nous ont fait du mal. Eh bien, faisons-le. Bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez, on l'a lu dimanche, vous rappelez dimanche la conclusion. Bénissez, c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Et nous devrions être focalisés sur ce qui amène la bénédiction, sur ce qui attire la malédiction. On va lire le psaume. J'ai presque failli dire au hasard. Mais le psaume 24. Voilà, parce que c'est un texte qui parle de l'homme qui obtient la bénédiction. Mais si vous faites l'inverse, vous obtenez quoi? Et la malédiction. Psaume 24. En plus, ça commence toujours avec ces paroles qui nous rappellent que Dieu voit tout, que Dieu sait tout, que Dieu est puissant. Psaume 24. C'est ce genre de psaume qu'il faut méditer, si vous voulez la bénédiction. Moi, ça me fait mal au cœur quand je vois des chrétiens qui sont maudits. Il y en aura des chrétiens maudits? Vous savez, quand ça sort de la boule de l'homme, c'est pas grave, si c'est moi je peux me tromper. Je peux dire, tiens, cette personne, elle sera maudite. Mais quand c'est Jésus qui va s'adresser à des gens et qui va leur dire, retirez-vous de moi, maudit. C'est écrit ou c'est pas écrit? C'est pas moi qui le dis. Moi, c'est pas grave, c'est Jésus lui-même qui le dit. Retirez-vous de moi, maudit. Pourquoi? Parce qu'ils n'auront pas fait les œuvres qu'ils auraient dû faire. Parce qu'ils n'auront pas été à l'écoute. Voilà, ils priaient, Seigneur, parle-moi. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'était pas vrai. Pourquoi? Parce que les reins de leur entendement n'étaient pas sains. Ils écoutaient, mais après 5 minutes après, ils avaient tout oublié. Quand Dieu nous parle, on lit le psaume 24. Regardez, psaume 24, verset 3. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Une question, il y en a dans la Bible. Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. De celui qui ment, ça y est, il est en vrac. Qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Celui qui joue, qui magouille, qui trompe, peut vous dire qu'il peut prier tant qu'il veut. Celui qui s'irrite, il n'obtiendra pas la bénédiction. La miséricorde du Dieu de son salut, voilà le partage de la génération qu'il invoque de ceux qui cherchent ta face. Il obtiendra la bénédiction. Il y a un comportement à voir. C'est pas dans l'hypocrisie. Je fais pas semblant d'être dans la paix. J'ai perdu la paix. Oui, j'ai perdu la paix. J'ai perdu la paix. J'ai critiqué Michael parce que vous trouvez qu'il chante bien, Michael? Non, oui, bon, vous pensez comme moi. Mais bon, hein, voilà, j'ai critiqué. Seigneur, je demande pardon. Qu'est-ce que ça coûte demander pardon? Ah non, moi, demander pardon, jamais. Vous n'avez pas entendu des chrétiens qui ont dit ça? Vous n'avez jamais entendu un chrétien, moi, demander pardon? Jamais. Vraiment, que c'est dommage. Qu'est-ce que ça coûte de demander pardon? Je te demande pardon. Je t'ai mal parlé. Oui ou non? Mes frères et sœurs, qu'est-ce que ça coûte d'aller voir quelqu'un et dire, tu sais, je te demande pardon. Nicolas, je te demande pardon, je t'ai parlé mal de Michael. Ne riez pas, c'est pas vrai. Mais que de fois on peut dire... Oui, mais ne riez pas, parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas bénis à cause de la critique. Parce qu'il y a la calomnie et la médisance. On revient à Pierre. Vous le méditerez, Pierre? Vous l'avez fait? Est-ce que vous avez médité un Pierre? Est-ce que vous l'avez fait depuis dimanche? Qui l'a fait depuis dimanche? Un Pierre, chapitre 2. Mais mes frères et sœurs, je ne sais pas si vous réalisez, vous croyez vraiment que Dieu bénit? Est-ce que vous le croyez que Dieu bénit? Et que même, je le répète, si dans une église il y aurait 100 personnes, il n'y en a que 4, il y en a 99 qui obéissent pas, et est-ce que Dieu va voir celle qui obéit? Eh oui, et Dieu la bénira. C'est ne dites pas, ouais, je ne suis pas béni, c'est à cause d'eux. Vous rappelez Jacob? Vous rappelez Jacob qui croyait qu'il était en colère, que son frère était en colère contre lui. Le problème, il l'avait avec son frère ou il l'avait avec Dieu? Le problème, il l'avait avec... Quand il a réglé le problème avec Dieu, c'est bizarre comment Dieu a incliné le cœur de son frère Ésaü. Oui ou non? Et souvent, on ne se rend pas compte. On a des problèmes avec les gens parce qu'on a des problèmes avec Dieu. Mais dès que vous déposez tout au pied du Seigneur, même si... le problème, il est réglé. Regardez, 1 Pierre chapitre 2. Alors, on en passe, hein? Rejetant donc toute méchanceté. C'est quoi la méchanceté? J'aimerais qu'un jour, Nicolas, tu fasses toute une étude avec la jeunesse sur la méchanceté. Ça vaut la peine vraiment de s'y arrêter dans la Bible pour voir ce que sont les méchants. Toute ruse, la dissimulation, pardon, l'envie et toute médisance. Tiens, c'est quoi la médisance? C'est quoi la médisance? C'est quoi la calomnie? C'est quoi la médisance? Ce sont des choses archipratiques. Mais lorsque l'on médit, eh bien, on ne peut pas être béni. La médisance, c'est-à-dire que je dis quelque chose qui est vrai. La calomnie, c'est-à-dire que c'est quelque chose de faux. Je dis à M. Dupont, il a trompé sa femme, tu te rends compte ce qu'il a fait. C'est pas vrai. C'est faux. Mais est-ce que ça existe, les calomnies? Je peux vous dire que la calomnie, c'est vrai, ça n'attire pas la bénédiction. Mais ça peut être vrai. Monsieur Dupont a trompé sa femme. Je le sais. Il a demandé pardon. Il a réglé ça. Mais je le dis. C'est ça la médisance. Je rapporte des vérités, c'est vrai, mais dans le but de salir la personne. Et la Bible dit, c'est clair. Rejeter la médisance. Après, ça peut arriver qu'on évoque une situation. Jeudi soir, vous allez voir qu'on va évoquer la discipline dans l'église. Et ce n'est pas être... comment on appelle ça? Ce n'est pas que de cafeter que d'aller dire, monsieur Gros, ça m'est déjà arrivé, tel garçon a une attitude déplacée avec les jeunes filles. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous en occuper? Est-ce qu'elle a raison, la jeune fille, de faire ça? Oui, ça, ce n'est pas de la médisance. Au contraire, ça, c'est veiller les uns sur les autres. Et par la grâce de Dieu, dans l'Assemblée, je trouve qu'on veille les uns sur les autres. Mais ça, c'est pas de la médisance. La médisance, c'est que je dis quelque chose que quelqu'un a fait, mais parce qu'en fin de compte, à quoi ça sert? Pour lui nuire. Hein? Surtout quand les gens ont demandé pardon. Et la médisance, ça n'amène pas à la bénédiction. Il y a des gens qui se demandent, mais pourquoi je ne suis pas béni? Pourquoi il y a une personne qui, je ne comprends pas pourquoi je ne suis jamais béni. Eh bien, je peux vous dire que si elle s'examinait, si vraiment elle laissait le soin au Seigneur de lui parler, on l'a vu dimanche matin, dans le psaume 50, Dieu parle, et puis à un moment il dit, voilà, tu parles contre ton frère, alors je me tais. Et je crois, mes frères et sœurs, que c'est absolument important de comprendre ces choses. Oui, je comprends pourquoi la première exhortation, c'est saigner les reins de votre entendement. Ça passe par l'intellect, ça passe par la tête, même si ça se transforme par la foi, il faut que je puisse dire, mais qu'est-ce qui empêche la bénédiction? On le voit, en plus c'est un sujet, il est presque infini ce sujet. Moi j'ai des notes, je me suis arrêté ce matin, j'aurais pu apprendre, franchement dans la matinée j'aurais pu écrire 20 pages de notes avec tout ce que j'ai dans ma tête. Parce que je sais très bien que c'est une décision. La foi, c'est comme ça, à tes résolutions répondra le succès. Tu me montres ce soir que je ne dois pas parler mal, j'arrête de critiquer. J'arrête de critiquer, j'arrête des paroles méchantes. On l'a vu dimanche, Ésaïe 58, le véritable jeûne, c'est pas se priver de manger. Le véritable jeûne, c'est dénouer les liens de la méchanceté. C'est oui ou non? Et on ne se rend pas compte, mes frères et sœurs. Mais moi, je ne sais pas. Je suis sûr qu'on veut tous être bénis. Il y a quelqu'un qui ne veut pas être béni? Il y a quelqu'un qui se lèverait et qui dit, monsieur Gou, je veux être maudit? Mais bien sûr que non. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Quand on se confie dans l'homme, la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Alors, est-ce qu'on peut... Alors, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Est-ce qu'on peut demander à des gens de prier pour nous? Priez pour moi, je suis fatigué. Et le diable, lui, se frotte les mains. Alors que le Seigneur, c'est clair, quand vous prenez cette épître, mais moi je vous encourage à la lire, à la relire, 20 fois s'il le faut, il dit, mais qu'est-ce que c'est qui fait obstacle à la prière? Parce qu'avouez que c'est quand même ridicule de prier. Imaginez-vous que je prie tous les jours une heure et qu'au bout d'un mois, vous me dites, écoutez, monsieur, tu pries pour rien. Vous êtes d'accord, c'est ridicule. Et... Je vous ai parlé parce que on va y revenir, même si j'en ai parlé dimanche, au chapitre 2, au verset 17. Parce que je sais qu'il y a des chrétiens qui se font piéger par cette affaire-là. La Bible demande d'honorer tout le monde, d'honorer les serviteurs de Dieu. Est-ce qu'il faut honorer les serviteurs de Dieu? Est-ce que vous priez pour moi? Vous l'avez fait ce matin? Bon, ça va. 1 Pierre 2. Regardez bien ce verset. N'oubliez pas, je le répète, dans le texte original, il n'y a pas de chapitre, il n'y a pas de verset, il n'y a qu'une pensée qui fait un tout. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Honorez le roi, dans notre comment dirais-je, législation à nous, nous n'avons pas de roi, mais nous avons un président. Honorer le roi, ça ne veut pas dire qu'on est dans l'admiration de notre président qui a voté des lois impies. Bien au contraire. Mais honorer le roi, honorer le président, ça veut dire, Seigneur, je te prie pour le président de la République. Mes frères et sœurs, il n'en faut pas plus, ou pas moins, comme vous voulez, pour que nos prières ne soient pas exaucées. Moi, je peux vous dire que je n'apprécie pas du tout le gouvernement qui vote des lois impies, mais je prie pour eux, et vous ne m'entendrez jamais les critiquer. Pourquoi? Eh bien parce que je n'ai pas envie que quelque chose vienne faire obstacle à ma prière. De toute façon, un chrétien, lui, il ne fait pas de la politique dans le sens politicien du mot. Le chrétien, lui, il fait la volonté du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Et je ne sais pas si vous lisez ces versets. Soyez serviteurs, versets, voyez, soyez soumis en toutes choses à vos maîtres. Comment vous parlez de vos patrons? Si vous avez un patron ou un professeur à l'école, comment vous parlez d'eux? C'est écrit, verset 13. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi, comme, etc. Soyez soumis. Bien sûr, si vous demandez de faire quelque chose qui est contraire à la parole, si vous demandez de mentir, si votre patron vous demande de mentir, est-ce que vous allez mentir? Bien sûr que non. Mais quand on obéit, c'est un état d'esprit l'obéissance. Et il y a des chrétiens, ils sont rebelles. Mais est-ce que vous le comprenez ça? Il y a des chrétiens qui sont rebelles. Ils sont tout le temps en train de contester. Vous avez vu un enfant qui est rebelle contre ses parents? Est-ce que vous avez déjà vu des enfants rebelles à leurs parents? Vous savez, par leurs propos, hey, « mon père, ma mère », etc. On le voit, en plus dans l'intonation, on voit cet esprit de rébellion. Mais moi, je peux vous dire que des fois, j'ose pas, tellement les chrétiens ne sont pas bien. J'ose pas les reprendre. Des fois, je le fais. Et il y a des gens qui me disent « mais Dieu regarde au cœur !» En plus, vous voyez, j'ai dit « oui, mais Dieu regarde que ça ne va pas bien du tout. » Vous voyez, le toupet de dire « Dieu regarde au cœur !» Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole grossière. Et toutes ces choses, on devrait les lire, les relire. Tiens, mais qu'est-ce qui peut faire obstacle à la prière? Qu'est-ce qui peut faire obstacle dans la famille? Dans la famille, est-ce que c'est important dans la famille de veiller les uns sur les autres? Sur la communion fraternelle, est-ce que c'est important? Mes frères et sœurs, moi je vous encourage à prendre la concordance et à prendre tous les textes sur la bénédiction, tous les textes sur la malédiction, tous les textes sur le mot béni. Vous en aurez pour des mois, bien, c'est bien, mais pas les lire, à vraiment les méditer. Tiens, qu'est-ce qui est dit? Parce que quand même, on va terminer, parce qu'on est bien obligé de terminer, mais est-ce que vous vous rendez compte ce qui est dit au verset 9 du chapitre 3? Est-ce que vous réalisez de ne pas rendre le mal pour le mal? C'est pas facile parfois quand on ment. Vous savez, une fois, quand j'étais sur les chantiers, à la fin de l'année, on avait une grosse prime. Si on n'avait pas fait d'erreur sur les chantiers, on avait une grosse prime. Et on était sur des poteaux, il fallait qu'un dise, voilà, ça c'est le neutre, coche-le, clac-clac, tel fil, voilà, pour réalimenter des rues. Et le gars, il s'est trompé. Il s'est trompé, et quand on a rebranché la rue, l'avenue, toute la rue a tourné à l'envers. Ça veut dire que toutes les télés, tous les frigidaires, tous les congélateurs, toute la rue a été grillée. Tout. Alors le patron, il est arrivé sur le chantier et il a dit, qui c'est qui a fait ça? J'ai dit, c'est pas moi. Et l'autre, il a dit, oh si, c'est Go. Et j'ai dit, tu sais très bien que c'est pas moi. Ouais, mais Go, t'auras pas la prime. J'ai rien dit. Parce que je savais que Dieu permet ces épreuves-là. Et quand je suis parti, donc un an après, ou un an et demi, on avait fait un repas, il n'y avait que des gros gaillards là, sur le chantier, et puis tout d'un coup, il y a le gars en question qui se met à pleurer devant tout le monde, hein, devant tout le monde. Il dit, il faut que je dise quelque chose, Gérard, il faut que je te parle devant tout le monde, je sais que tu es un vrai chrétien, je sais. Et il a expliqué son affaire. Mais voyez, moi j'avais dit merci Seigneur. C'est vrai, je ne mens pas. J'avais dit, Seigneur, merci. On n'avait pas eu la prime. Moi qui voulais acheter une super robe à Isabelle. Je n'ai pas eu la prime. Mais voyez, est-ce que Dieu a pu me tester là-dessus? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il est dit? 1 Pierre 3, verset 9. Ne rendez pas le mal pour le mal. Je vous assure que j'avais compris. Pourtant, je n'avais pas 3 ans de conversion. Voyez. J'avais 2 ans. J'ai rien dit. Ne rendez pas le mal pour le mal. Ou l'injure pour l'injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Mes frères et sœurs, ne rendez pas le mal pour le mal. Bénissez. Bénissez. Quand vous priez, vous bénissez. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Dieu, il veut donner la bénédiction. Jésus l'a dit, je suis venu donner la vie, et la vie en abondance. Une abondance de paix, une abondance de pardon. Et moi, quand je vois tous les chrétiens qui rétrogradent, je me dis, c'est pas possible. Il y en a qui m'ont dit, ils n'étaient pas convertis. Moi, je ne crois pas que tous les chrétiens qui rétrogradent étaient pas nés de nouveau. J'y crois pas, moi, ça. Beaucoup de chrétiens étaient nés de nouveau. Beaucoup de chrétiens étaient repentis, beaucoup s'étaient convertis, mais ils n'ont pas veillé. Ils n'ont pas veillé, ils n'ont pas saint les reins de leur entendement. Ils n'ont pas été sérieux. Mais je vous dis, prenez la concordance. Et regardez tous les textes, je le répète, sur la bénédiction, la malédiction, le bonheur, le malheur, mais vous verrez. Et quand la Bible dit « ne rendez pas le mal pour le mal », bénissez. Cette personne, elle m'a critiqué. Eh bien, c'est bien, tant pis. Merci Seigneur. Non, mais tu rigoles ou quoi? Est-ce qu'il y a un verset qui dit « rendez grâce en toute chose, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ ». Bon, il m'a fallu quand même quelques leçons pour apprendre ça. Mais le jour où je l'ai fait, le jour où j'ai compris qu'il ne fallait plus lutter contre la chair et le sang, j'ai été délivré. Pourquoi? Parce que Dieu dit « ne luttez pas contre la chair et le sang ». Mais revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Et c'est ça, commencer à ceindre ses reins. Je veux que la vérité, c'est ça quand il dit « ayez à vos reins la vérité ». Je veux être obsédé par la vérité. Je veux faire comme Job. Il a prié pour ses amis, Dieu l'a rétabli. Combien aurait dit « attends, je vais prier pour mes amis, ouais. Ça fait 3 mois qu'ils me cassent la tête, et bien je peux te dire qu'ils se débrouillent ». Il n'y en a pas qui le dirait ça aujourd'hui? Combien de chrétiens disent « mais moi, je ne dis même pas bonjour ». Il ne faut pas s'étonner qu'il rétrograde. Dieu bénit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Toute grâce, tout don parfait, ça descend de Dieu. Vous pouvez être béni maintenant. S'il y a un problème, réglez-le. Vous avez critiqué quelqu'un, demandez pardon. S'il le sait, si vous avez dit... allez voir la personne. S'il y en a 5, allez voir les 5 personnes. S'il y en a 10, allez voir les 10 personnes. Faites-le. Et Dieu vous bénira. C'est Dieu qui bénit. Il ne met pas démon à bénir le Seigneur. Il lui faut quelques secondes, le temps qu'on lui dise pardon. Alors saignons les reins de notre entendement. Et ne parlez pas mal des uns, des autres, des églises. Moi, je l'ai fait pendant des années, ça. Il a fallu un jour, à une réunion de prière, que je demande pardon aux églises. J'ai demandé pardon à un pastoral, à plein de pasteurs que j'avais critiqués. Mais vous voyez, j'aurais pu m'éviter ça. Mais je savais que la bénédiction, ça passait par là. Alors, vous savez, je ne suis pas meilleur que vous. Mais je sais une chose, c'est que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. C'est-à-dire que vous pouvez adorer Dieu tant que vous voulez. Si on n'observe pas la parole, il n'y aura rien. Alors que Dieu nous aide, mes frères et sœurs, afin que rien ne vienne faire obstacle à nos prières. Alléluia. Amen. Notre Père, merci de nous avoir laissé ta parole. Merci, merci Seigneur, dans ta bonté infinie, de nous avoir montré tout ce qui peut faire obstacle à la prière. Aide-nous, Seigneur, afin que les reins de notre entendement, que notre intelligence, que nos pensées, que notre vie intime soient soumises à ta parole. Tu vois les chrétiens qui sont maudits, qui sont malheureux, qui sont vraiment toujours tristes à cause du péché. Délivre-nous, Seigneur, et fais grâce dans l'Église, que tous nos êtres soient bénis, que nous soyons des bénédictions pour nos enfants, pour nos conjoints, pour nos familles. Seigneur, que nous apprenions à bénir tous ceux qui nous ont fait du mal. Oui, Jésus, tu l'as promis dans ta parole que celui qui bénissait, il hériterait de la bénédiction. Qu'il en soit ainsi dans cette église, Seigneur, et dans chacun de nos foyers, et pour tous ceux qui écouteront cet enregistrement sur Internet, fais leur grâce, Seigneur. Tu vois tous ces chrétiens qui ne vont plus dans les églises, qui sont blessés, qui ont été blessés, qui se sont fait du mal. Délivre-les, Seigneur, de l'amertume, de l'irritation, et reconduis-les dans ta maison, afin que nous soyons tous comme une armée puissante pour l'évangélisation de notre nation. Merci pour ta parole, Seigneur. Que ton nom soit béni. Amen.